d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Ludo et Christophe. Bonjour à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Claude à la technique et bien sûr moi-même, Gilles, au micro. Nous parlerons donc ce soir de la réforme de l'assurance chômage. Effectivement, ce jeudi 30 septembre, le gouvernement a publié un décret pour mettre en œuvre la réforme de l'assurance chômage dès le 1er octobre, c'est-à-dire aujourd'hui. Il n'aura pas laissé le temps au Conseil d'État de rendre son avis. La haute juridiction administrative, qui a suspendu la réforme cet été en raison de la fragilité de la reprise, doit encore se prononcer sur le fond, alors que les indicateurs économiques font état d'une croissance soutenue. C'est une course contre la montre qui a engagé le gouvernement, en publiant son décret le 30 septembre pour une mise en application de la réforme de l'assurance chômage dès le lendemain, donc aujourd'hui. Il sait qu'il met en difficulté la haute juridiction, car en général, il faut compter plusieurs mois après une saisine pour qu'elle se prononce. Explication et analyse avec nos deux chroniqueurs habituels, Ludo et Christophe. On prend la parole tout de suite après. Donc on reprend cette émission. Merci Ludo. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi le gouvernement a pondu ce décret avant que le Conseil d'État se prononce ?
Le juriste, c'est Christophe. Alors,
donc
c'est
oui, Christophe, dis-moi.
Alors en fait, il y a une stratégie évidemment d'économie globale, puisque le quoi qu'il en coûte beaucoup. Il y a près de 240 milliards d'euros qui ont été donnés en diverses aides, aussi bien aux personnes sans travail temporairement du fait de la crise Covid que aux entreprises, quelle que soit leur taille. Ce qui a d'ailleurs permis d'améliorer grandement le rendement et la marge de bénéfice de certaines entreprises du CAC 40. On regarde de la santé et de la bulle de la bourse actuellement qui a plus de 6500 points, faut-il le rappeler. Mais alors, l'objectif, c'est quoi ? C'est de faire passer dans la rapidité d'appui totale une mesure d'économie pour présenter un bilan présidentiel plus conforme, lié aux idées qui étaient développées de réduction des déficits publics. Mais ça se fait sur le dos des plus précaires. Et alors, évidemment, l'idée, c'est de outrepasser la notion de recul vis-à-vis du droit, puisque le Conseil d'État, par rapport au corpus des lois qui sont mis en œuvre, que ce soit par le Sénat ou l'Assemblée nationale, voire les décrets ministériels ou présidentiels, prend une posture de recul par rapport à ça et est dans une logique de liberté, égalité, fraternité, donc des valeurs même de la République. Donc c'est pour passer outre ça. On peut s'interroger sur le mode opératoire qu'il y a vis-à-vis de ça, sachant que le Conseil d'État n'aime pas du tout qu'on lui mette la pression, puisqu'elle est dans une logique régalienne et républicaine, dans une posture de recul par rapport aux textes de loi qui sont mis en œuvre.
Il faut quand même rappeler qu'il y avait une décision sur le fond qui devait être prise par le Conseil d'État, dont on ne connaît toujours pas la date et dont on ne sait même pas si elle aura lieu, puisqu'il y a une autre, puisque le décret est censé annuler le précédent, en fait, ou plutôt corriger le précédent. Donc, de mon point de vue, c'est une façon de couper court une possible ingérence en fait du Conseil d'État dans des considérations entre guillemets politiques. C'est-à-dire que dans un premier temps, il avait pris le décret soi-disant il avait dans un premier temps retoqué pour une inégalité de traitement entre les chômeurs.
Tout à fait.
Puis il prend ce décret pour des raisons de circonstances, il dit bah ouais, la reprise économique est pas trop là, mais on jugera ça plus tard. Et puis le gouvernement lui dit non, la reprise économique elle est là, les indicateurs. Donc sur le fond, on reprend le truc. Alors j'ai cru comprendre que les syndicats préparaient un autre recours,
oui.
Évidemment.
Ils vont ressaisir le Conseil d'État, apparemment.
Oui, parce que c'est un nouveau décret. Donc.
Bien sûr.
Et puis, il parlait aussi éventuellement de saisir le Conseil constitutionnel, puisque la décision a été prise avant, en fait, la décision sur le fond. Et c'est vrai que moi, je trouve, de la part de ce gouvernement hein, qui prétend avoir le, d'accord, le primat politique, que effectivement vis-à-vis des règles républicaines, c'est du Macron quoi, hein, c'est quoi qu'il en coûte. Et je pense qu'effectivement l'urgence pour des considérations électorales, hein, c'est-à-dire la présidentielle dans un an, c'est la principale motivation.
En plus, je pense qu'il va être difficile pour le Conseil d'État de revenir sur déjà une loi qui est déjà passée.
Est-ce que ça c'est ça le problème. C'est ça, le souci. Alors, c'est pas une loi, c'est un décret.
Ah, hein. Le décret, pardon.
Mais c'est exactement le problème. Comment,
j'ajouterais que stratégiquement et politiquement, c'est très bien joué parce qu'on est à 6 mois de la présidentielle. Et comme le Conseil d'État va récupérer cette décision ou la retoquer ou mettre des observations, hein, ça sera pour le nouveau président ou le président réélu, on ne sait pas encore. Donc ça va être un casse-tête politique.
Voilà. Et ça, il faut dire aussi hein, que c'est un effet direct de la réforme de Macron, de M. Macron lui-même, de l'assurance chômage hein, et des négociations UNEDIC. C'est-à-dire que dans la mesure où l'État a la possibilité de s'ingérer désormais dans les négociations et d'imposer ses vues, alors ça a toujours été un peu le cas avant, hein, puisqu'il devait, mais simplement il devait valider des accords. Mais là, il peut imposer une contrainte, un objectif sur les négociateurs, donc c'est ce qu'il a fait avec sa lettre de cadrage de 3 milliards hein, d'économie, puisque c'est vrai, il a supprimé une partie des charges, enfin des charges, des cotisations sociales sur le chômage patronal pour les employeurs, et donc c'est lui-même qui compense. Alors, bon, on sait que c'était voilà, c'est lui-même qui compense ce qui manque. Et donc, il est en droit de d'avoir un avis. Et c'est ça, hein, la monarchie de monsieur Macron.
Je comprends bien.
Dans la méthode et sur le fond.
Donc, on peut contester la forme. Et par contre, sur le fond, pour le coup, là, on est sur... donc, il faut avoir travaillé... Alors, bien sûr, vous allez prendre la parole là-dessus.
Oui, je vais expliquer sur les exemples.
On va travailler 6 mois dans les 2 dernières années.
Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, si tu permets, effectivement, on va enchaîner direct sur qu'est-ce qu'on va perdre ou gagner au 1er octobre. Hein, puisque ce décret est désormais publié. Alors, selon l'UNEDIC, ça fait quand même un peu froid dans le monde, il y aurait 1,15 million, donc 1 150 000 personnes demandeurs d'emploi qui devraient subir une baisse de leur indemnité mensuelle au cours de la première année de mise en œuvre. Alors, quelques explications. Hein. Le décret du 29 septembre qui va s'appliquer à partir d'aujourd'hui, il y a un nouveau calcul du salaire journalier de référence. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que le salaire de journalier de référence, c'est un calcul, en fait, c'est une formule mathématique qui permet de déterminer votre revenu par jour d'indemnisation ACEDIC, par jour de cotisation chômage. Donc, je rassure un peu les gens, malheureusement, si je puis me permettre, encore c'est un mot très maladroit, les gens qui sont actuellement au chômage avant le 1er octobre, c'est pour ça qu'on parle d'1,150 000 personnes, ne sont pas concernés par cette réforme. Mais par contre, s'ils retrouvent par la suite des CDD ou des CDI, ou enfin des contrats courts, ils vont être concernés dans leur recalcul de l'indemnisation.
Donc, c'est pour les nouveaux chômeurs à partir d'aujourd'hui.
Voilà, c'est-à-dire que, en fait, c'est pour... les chômeurs actuels qui, avant le 1er octobre, ne sont pas concernés, s'ils retrouvent un emploi et des contrats précaires, ils seront ensuite concernés quand ils retourneront au régime de l'assurance chômage.
C'est-à-dire que le recalcul est possible, des allocations est possible en cours d'indemnisation.
En fait, l'allocation retour à l'emploi, la fameuse AR, sera de fait modifiée. Donc, en gros, c'est au départ.
Alors,
au début,
excuse-moi Christophe, juste une question. Si par exemple, j'ai pas utilisé tous mes droits au chômage et que
c'est là où ça devient méchant.
D'accord. Je t'écoute.
C'est qu'au départ, Pôle emploi additionnait l'ensemble de tes salaires bruts au cours des 12 derniers mois. Et puis les divisait ensuite par le nombre de jours où tu avais travaillé pendant cette période. Elle multipliait ensuite le chiffre par 1,4 et obtenait ainsi ce qu'on appelait le salaire journalier de référence, le fameux SJR. Donc, ensuite, elle appliquait le calcul le plus avantageux, c'est-à-dire 40,4% de ton salaire régional journalier dû, soit 57% de ton revenu brut. Sauf que maintenant, avec la réforme, qu'est-ce qui change ? Donc, je te fais le truc général et ensuite, je te donnerai des cas concrets. Maintenant, la période de référence, elle passe pas à 12 mois, elle passe à 24 mois. Déjà, premièrement. Donc, ça veut dire que ton dernier contrat ouvrant droit à indemnisation prend fin. Pôle emploi rembobine ton parcours sur 2 années au lieu d'une pour ton premier contrat de travail, pour tes calculs. Donc, il est ainsi possible de comptabiliser l'ensemble de tes contrats depuis novembre 2019. Donc, il y a des gens qui vont avoir une forme de recalcul. D'ailleurs, en termes de droit, ça peut poser des problèmes, ce décret. Et je pense qu'il va avoir des recours, notamment au niveau des syndicats, sur la notion de recalcul, puisqu'il y a déjà eu la notion de, avec les décrets Raffarin, vous vous souvenez de ça, il y a 15 ans, il y avait le droit des fameux recalculés, avait même été dénoncé par le Bureau international du travail.
Et là, pour le moment, il ne s'agit pas de recalcul, il s'agit de calculer à ton entrée dans la période de chômage,
Non, il y a justement, il y a une petite faille dans le truc, c'est-à-dire que si tu as eu des contrats courts et que tu as une indemnisation chômage avant le 1er octobre, il se peut qu'ensuite, en ayant un autre contrat court dans 6 mois qui viennent, on te recalcule, mais sur une période de 2 ans. D'accord. C'est ça qui...
Et ça, c'est possible. Alors, ça, c'est possible. On ne maintient pas les mêmes droits.
Voilà, c'est ça qui va... Alors, ça peut paraître assez compliqué. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Hein. Donc, c'est un article qui explique très bien. Donc Manon enchaîne 2 CDD de 3 mois sans interruption, elle n'a pas de période d'inactivité, hein. C'est l'exemple numéro 1, l'emploi continue. Elle est payée 1 550 € brut par mois pour les 2 contrats. Elle s'inscrit à Pôle emploi qui lui ouvre ses droits puisqu'elle simule 6 mois travaillés, puisque c'est la règle, c'est 6 mois travaillés. Donc après le 1er octobre, son allocation sera de 965 € brut. Elle aurait eu le même montant sans la réforme, puisque là, hop. Cas numéro 2, emploi discontinu, période d'inactivité de 3 mois. Donc Alexandre, qui a fini ses études en même temps que Manon, a travaillé 2 fois 3 mois en CDD pour un salaire mensuel de 1 550 € brut, le même salaire. Mais entre ces 2 contrats, il a connu une période d'inactivité de 3 mois. À la fin de son second contrat, ayant cumulé 6 mois travaillés, il s'inscrit à Pôle emploi. Logique. Seulement après le 1er octobre, son allocation de chômage sera alors de 792 €, contrairement aux 965 €. Pourquoi ? Parce qu'elle aurait été de 965 € avant la réforme, soit une différence de 174 € pour le même nombre de jours travaillés et le même salaire que Manon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dégressif avec la période d'inactivité.
C'est ça. Alors oui, je mettrais juste un bémol, hein, et c'est précisé vraiment sur le site de Pôle emploi, c'est qu'il y a quand même une indemnisation minimale de 800, alors ça fait, c'est 29 € par jour, qui fait du 880 euros par mois.
Donc, d'accord. Alors, cas numéro 3, tu as un emploi discontinu et il y a une période d'inactivité de 6 mois. Donc, Nora justifie de 2 CDD de 3 mois payés 1 550 € brut, mensuel sur sa période de référence, mais sur des périodes d'activité entre ces 2 contrats et de 6 mois. Elle a aussi accumulé donc 6 mois travaillés, lui permettant d'ouvrir ses droits à Pôle emploi, d'accord ? Seulement avec cette période d'inactivité plus longue, son allocation chômage sera de 677 €. Elle aurait été de 965 € avant la réforme. Donc, les gens qui vont être pénalisés, c'est les gens, la majorité des chômeurs, qui ont des emplois précaires. Donc, on leur dit de devoir travailler, sachant que le CDI n'est plus la norme aujourd'hui dans une grande partie de certains métiers, même en tension dans le privé. Ça, c'est intéressant comme paradoxe. On dit qu'il faut accepter que, quoi qu'il en coûte, de travailler, mais en fait, on pénalise les gens qui veulent quand même rester en activité sur une année. Oui. Tu vois, c'est un paradoxe, ça. Enfin, oui. Le quatrième emploi, cas, hein, c'est l'emploi discontinu avec une période d'inactivité, mais là, 10 mois. Tu vois, une grosse période. Jules a trouvé un travail bien rémunéré, 2 800 € brut mensuel. Il avait effectué un premier CDD de 5 mois, trop court pour ouvrir des droits. Mais par la suite, il a été en activité pendant 10 mois, avant de trouver un nouveau CDD de 5 mois avec la même rémunération. Super. Avant la fin de ce contrat, avec 10 mois de travail cumulé, il s'inscrit donc à Pôle emploi. Après le 1er octobre, son allocation chômage sera de 980 €. Elle aurait été de 1 521 € avant la réforme, soit une différence de 541 €. Donc les gens qui ont des contrats précaires, même bien rémunérés ou correctement rémunérés, on va dire, ils vont être pénalisés, de fait. Donc,
alors moi, j'ai juste avant que tu poursuives, j'ai un quatrième cas. Alors ça, c'est authentique, c'est entendu par moi-même ce midi sur France Info. La journaliste présente donc le décret de l'assurance chômage et pour illustrer son propos, donne un exemple. Elle donne l'exemple d'un cadre qui toucherait 7 000 € par mois. Donc merci pour l'exemple, madame la journaliste, puisqu'on sait bien qu'à Pôle emploi, il n'y a que des chômeurs qui ne touchent que 7 000 € par mois. Non,
c'était pour illustrer la dégressivité.
C'est exactement ça, mais bon. Hallucinant quand même que la presse française donne des exemples pareils. Alors qu'on sait bien qu'actuellement, à Pôle emploi,
60% des allocataires ne touchent pas d'allocation, que 40% seulement en touchent, et que sur ces 40%, il y en a la moitié qui touche même pas, qui touche au minima, j'imagine, pour le coup. Donc, excuse-moi, Christophe, on continue.
Alors, je termine par une remarque très juste de Mathieu Grégoire. Vous savez, Mathieu Grégoire, c'est le fameux conseiller Pôle emploi en insertion, hein, qui était du côté de la Bretagne, si je me souviens bien, qui a été révoqué de Pôle emploi parce qu'il dénonçait, en fait, il informait les intermittents du spectacle de Bretagne, entre autres, des droits annexes qu'ils avaient, alors que Pôle emploi, pour faire des économies, ne leur communiquait pas. Il s'était fait rappeler alors, puis ensuite, il s'est fait, je pense, démettre ses fonctions. Voilà ce qu'il dit. Il y aurait 1,15 million de demandeurs d'emploi qui verront leur aide de retour à l'emploi diminuer en moyenne de 17% grâce au jeu des CDD, et des périodes d'inactivité plus pénalisantes, soit 4 chômeurs sur 10, à moins que le Conseil d'État se rebiffe face à la manœuvre du gouvernement et suspend encore la réforme dans le courant du mois d'octobre.
Très bien, merci beaucoup. On écoute une petite chanson, on reprend la parole après. Merci.
Passes sont étroites, mais ton œil est perçant, toi. Elles font un ami, ainsi de cet ami, elles font un otage.
Et oui, c'était Les Passes sont étroites de Bernard Rayan, un chanteur pour moi extraordinaire, il n'y a pas de souci. On reprend cette émission, c'est l'émission Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Si vous voulez intervenir au téléphone, c'est le 01 40 05 06 10. 01 40 05 06 10. Alors, on reprend cette émission sur l'assurance chômage, parce que c'est d'actualité pour le coup, hein, puisque la réforme démarre aujourd'hui. Hein, voilà. Donc, Ludo, est-ce qu'il y a une logique à avoir pondu un tel décret aujourd'hui ?
Alors, il y a évidemment une logique financière. Donc, comme on l'a dit, hein, les économies sont estimées à 2,3 milliards d'euros. Mais d'ici 2 ans, en fait, c'est-à-dire que le temps que, en fait, tout le monde passe sous ce régime, puisque on peut espérer qu'une, disons que le chômage n'est censé ne pas être un état permanent, mais on va dire aujourd'hui que c'est l'indemnisation qui n'est pas un état permanent, puisque plus de la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés et un certain nombre disparaissent dans les minima sociaux. Alors juste sur les conséquences, hein, d'après les syndicats, donc Christophe l'a dit, il y a 1,15 million de personnes qui toucheront moins d'indemnités que avant la réforme du 1er octobre, et en moyenne, 17% en moyenne, mais 400 000 personnes pourraient percevoir 40% de... pourraient avoir une baisse de 40% de leur indemnité.
Oula.
Ce qui est énorme.
Non.
Voilà. Et par ailleurs, les fameux 1,15 million de personnes représentent aussi 40% des personnes indemnisées. Donc ça impacte dur, quoi. Alors le fait d'avoir allongé sur 2 ans la période de référence, c'est spécifiquement en fait pour taper sur les gens qui alignent des contrats courts, parce que 2 ans c'est quand même très très long, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir un recul sur la carrière de la personne, et alors ça pourrait être dévastateur comme c'est-à-dire que ça pourrait être pire que maintenant, mais ils ont quand même plafonné les jours non travaillés à 0,75% des jours travaillés. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, c'est que leur calcul, grosso modo, vous ne pouvez avoir une baisse de votre, en théorie, du nombre de jours travaillés que de 25% quand vous alignez des contrats courts. Hein. C'est-à-dire que, grosso modo, les jours non travaillés ne peuvent pas excéder les jours travaillés dans le calcul de l'indemnité du chômage.
D'accord.
Voilà. Et donc, ça, c'était juste pour le rappel. En revanche, alors, la logique, de notre point de vue, il n'y a qu'une logique financière, parce que si ça avait une logique, ça se saurait. Mais en réalité, peut-être que dans les esprits... Les esprits donc du gouvernement Macron, il y a en réalité des gens qui croient vraiment à leur truc, c'est-à-dire c'est une pensée intégralement libérale, ce qui fait que l'acteur
tout
économique,
tout
y compris le chômeur, qui est un acteur économique, il ne le sait pas, mais il est un acteur économique, est responsable de sa situation et ses choix, et sa situation doit induire ses choix. Je m'explique. C'est-à-dire que vous êtes au chômage et vous cumulez des petits contrats, des bouts, machin, c'est un peu de votre faute. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez qualifié, vous n'avez pas, par stratégie, selon
ce qu'on pense, travail,
chercher un travail,
peut-être.
Du travail, si, mais du travail stable.
Stable.
C'est ça l'idée. Ça, ouais. C'est-à-dire que pour corriger la situation, il faut faire jouer à plein le mécanisme, dans leur esprit, c'est ça, le mécanisme du choix, en fait, et donc du marché du travail. C'est-à-dire que si vous désincitez les chômeurs à prendre des contrats courts, bah, fort logiquement, ils ne les prendront pas. C'est ça la logique. Alors évidemment, on pourrait quand même leur rétorquer que quand vous prenez un contrat, il y a ce qui s'appelle une période d'essai qui a été très très largement allongée et qui fait qu'il peut y avoir beaucoup de chances, vous ne savez pas si c'est un emploi durable. On pourrait aussi dire qu'en général, on a compté pour, avant qu'un jeune se stabilise, par exemple, quand il arrive sur le marché du travail, il fallait une moyenne de 10 ans. Hein, avant qu'il arrive à trouver quelque chose de
son premier vrai CDI. Ouais.
Voilà, et effectivement que ce fameux marché de l'emploi, il est un peu quand même biaisé. C'est pas un marché des biens et des consommations, et que les difficultés rencontrées en fait sont réelles, puisque si c'est une question d'offre et de demande, et ben ma foi, il y a 13 à 18 fois plus de chômeurs que d'offres d'emploi. Donc voilà. Donc c'est une pensée qui est authentiquement libérale, qui vise soi-disant donc à lutter contre ce dont en réalité la réglementation permet depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on a détruit le code du travail, on a permis toutes les encoches au CDI, au CDD de remplacement, maintenant on veut mettre des contrats de mission, on a permis toute cette précarité, et à la fin on vient dire finalement que les chômeurs ou les gens qui acceptent des contrats courts, c'est de leur responsabilité et qu'il va falloir trouver une solution, qu'ils trouvent par eux-mêmes une solution. Et voilà, donc je pense qu'en réalité, il y a une logique libérale, mais en réalité, comme toute logique libérale, ça cache derrière des motifs strictement financiers, en fait. Oui, l'État utilise ce type de pensée pour payer le moins qu'il peut des gens dont il ne veut plus s'occuper, en réalité.
Bien sûr. Alors, je pense qu'il y avait, alors je ne sais pas si ça va être dit par vous tout à l'heure, mais je pense que sur la durée d'indemnisation, c'est par contre, avant, on travaillait 4 mois pour toucher 4 mois de chômage, mais maintenant, il faut travailler 6 mois sur 2 ans, sur les 2 dernières années, pour toucher non pas 4 mois, mais c'est plus 3 mois, c'est-à-dire qu'on a la prolongation de 3 mois d'indemnisation.
Je crois que c'est 2 mois de
prolongement. J'avais lu 3 mois, mais je me suis peut-être trompé.
Je crois que c'est 2 mois, mais enfin, c'est très marginal, par rapport aux dégâts de baisse d'indemnisation. L'argument, c'est toujours le même. En fait, vous touchez autant, mais étaler un peu plus dans le temps. Mais bien sûr, on peut tous vivre quand on a une baisse d'un cinquième de vos revenus.
C'est complètement inique. Alors, tu voulais intervenir,
Oui, comme tu disais, dans cette logique libérale, en fait, ça part de postulats idéologiques. C'est là où il y a une contradiction qui est profondément inique. Ça part d'un postulat néolibéral qui est « la sélection révèle le talent ». Voilà. Qui était une pub, d'ailleurs, dans les années 80 et au début des années 90, pour une boîte d'intérim, je ne sais plus laquelle. La sélection naturelle de l'être humain révèle le talent, ce qui est complètement faux, parce que la diversité des expériences professionnelles d'une personne ne peuvent que se bonifier avec la stabilité et les différents environnements professionnels qu'il peut trouver ou que les missions nouvelles qu'on peut lui confier au sein d'une entreprise. Donc former une personne pour faire des CD d'usage ou précaires sur des mêmes missions, elle ne va pas évoluer en niveau de compétence. Donc déjà, ça c'est une première contradiction. La deuxième contradiction, c'est que les personnes qui ont pondu ces réformes au cours de ces 20-30 dernières années, et elles sont toutes issues du même moule, à savoir conseiller d'État, donc ENA, Polytechnique,
Sciences Po.
Oui, enfin les écoles de la République, quoi.
Voilà, les élites de la République. Il faut savoir qu'un conseiller d'État, en moyenne, il peut gagner jusqu'à 10 000 euros net par mois.
Oui, ces gens qui ne sont jamais concernés par les réformes.
Ce sont des personnes qui ne sont absolument pas concernées par ces réformes idéologiques.
Moi, j'observe que ces réformes sont plus de l'État, donc engagées par ces commis d'État, sont plus violentes que celles de l'UNEDIC elle-même auparavant.
Absolument. Donc, c'est des commis d'État qui ne connaîtront jamais la pauvreté et la précarité, qui sont en fait la noblesse d'État, soyons très clairs, qui méprisent. Enfin, on ne va pas enfoncer des portes ouvertes.
Si, c'est du mépris, faut le dire. Moi, je le dis, c'est du mépris.
Pantoufle la mort dans les entreprises du CAC 40 avec des niveaux de rémunération qui n'ont rien à voir avec le.
Indécent, oui, c'est clair.
Comme un des mortels. Et qui ne. C'est normal, les gueux, ça gère et ça jette comme des Kleenex.
Et les gueux sont responsables de leur situation.
Et voilà, non mais
donc il y a une tentative de criminalisation des pauvres.
C'est toujours un peu le cas. Enfin, de criminalisation là,
en tout cas. Culpabilisation en tout cas.
Et eux, ils auraient dit de responsabilisation.
Ah oui, c'est ça.
De responsabilisation. Et qui rime avec incarcération lorsque des personnes gilets jaunes se révoltent contre ce genre de situation.
Nous sommes d'accord.
Bien d'accord.
C'était le prix de l'énergie.
C'est-à-dire que
c'est pas pareil.
Non mais c'est quand même sidérant de. C'est là où on voit la thèse de François Ruffin, hein, qui parle de la guerre des classes.
La guerre de classe existe.
Elle existe, elle est claire.
Et on
c'est
a gagné.
Une haine profonde.
Moi, je voulais juste réagir par rapport à ce que tu disais, parce que effectivement, donc donc il y a une logique libérale. Alors effectivement, c'est donc l'État est plus dur hein, que quelque part les patrons eux-mêmes, qui finalement, et on comprend, en fait, ont besoin de ces contrats courts. Parce que je rappelle que les principaux secteurs concernés, c'est justement des secteurs où les contrats sont sont suffisamment pénibles et mal payés pour que ce soit des contrats en perpétuelle rotation, donc oui. La restauration,
le bâtiment,
les services à la personne.
Et
en plus, agroalimentaire, mais c'était les trois secteurs justement qui étaient pointés pour un soi-disant emploi vacant. Alors oui, ce sera un manque d'emploi ou un manque de main-d'œuvre, ce qui est pas forcément. En fait, quand on dit manque de main-d'œuvre ou emploi vacant, ça veut juste dire qu'en réalité il y a une rotation sur les postes.
Hein.
C'est qu'à un moment donné, ça veut pas dire que c'est des postes qui sont tout le temps dispo. Et en plus, c'est vraiment des contrats où, effectivement, les employeurs, alors y compris les services à la personne, forcément, vous pouvez avoir des CDI hein, pour les services à la personne, mais enfin, si la personne dont vous vous occupez n'a plus besoin de vos services, elle n'a plus besoin de vos services, et vous passez à autre chose. Et dans la restauration, et ben oui, les extras, et dans l'intérim, puisque les intérimaires sont les premiers impactés, ben les manutentionnaires. Donc, vous voyez, là, on a quand même... c'est quelque chose qui va à l'encontre tel qu'il la présente, de la logique du marché du travail, et on comprend que les employeurs ne soient pas pour. Alors il y a bien sûr ce principe de bonus-malus, mais enfin le principe de bonus-malus, il rentrera en compte, il sera effectif en fin 2022. Hein. Là, c'est une période d'observation. Donc voilà, et alors la dernière chose, c'est qu'effectivement, lutter contre la précarité en faisant en sorte, en accentuant le besoin de main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre, et du coup, c'est ça la logique, en obligeant les patrons, entre guillemets, à forcément proposer des meilleures conditions de salaire, c'est magnifique. C'est un grand progrès social. Il y a juste un bémol, il faut que ça marche. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'exemples, y compris aux États-Unis en ce moment, hein, où Biden a été obligé d'aller dire... Biden, aux États-Unis, obligé d'aller dire, écoutez, si vous avez des problèmes de main-d'œuvre, vous avez juste à augmenter vos salaires. Ce qui est quand même
un bel aveu.
Voilà. Et alors, oui, la dernière chose, c'est qu'en fait, le gouvernement prend acte de la permittence de l'emploi aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, du fait que les jeunes, en fait, s'adaptent, en quelque sorte, à des contrats courts et jonglent, parce qu'ils sont obligés de le faire, hein, entre des conditions avantageuses. Est-ce que, voilà, si je vais. Or, en réalité, c'est pas que l'indemnisation du chômage est avantageuse. Nous, on le sait, elle a été bien plus avantageuse qu'elle l'est. C'est juste que les salaires ont été tellement écrasés et les conditions tellement détruites que le calcul, que ça peut être plus rentable pour un chômeur d'avoir une continuité de revenus aux assédiques tout en cumulant, parce que c'est comme ça que ça marche, puisque les intermittents du spectacle, c'est ce système-là. Et ça, il faut réfléchir à ce que devrait être un système d'indemnisation qui permette la permittence du travail, l'intermittence du travail. Et c'est ça dont il faut, c'est ça qui permettrait justement, qui obligerait les employeurs à augmenter les salaires, plutôt que de faire une réforme par le bas.
Le gros problème, et ça, c'est. Moi, j'ai pas souvent. Dans mes différentes lectures sur internet ou recherches ponctuelles, de l'effet, il n'y a pas de rapport aujourd'hui au niveau sociologique qui pointe les effets positifs de la permittance par rapport à la compétitivité, mais pas simplement compétitivité humaine, compétitivité en termes de qualification, de compétences et d'être avec. Sur la permittence. C'est-à-dire que la permittence, en fait, on croit qu'on va faire des économies, mais sur le long terme, sur des marchés qui se développent ou qui sont en tension, c'est le pire, c'est notamment dans le BTP. C'est-à-dire que la notion de permittence fait que tu as une partie du BTP, je ne te parle pas du travail au noir, qui est fait avec du moins 10 ans. Et ça dégrade toute la chaîne de production. Mmh. Donc, ce qui fait dire, par exemple, à certains architectes, je pense à quelqu'un, bah, moi, si je veux trouver quelqu'un de super compétent, maître d'œuvre, maître de chantier, etc., bonjour, quoi, je m'adresse pas en France, parce que je sais que là, ça va pas être possible du fait de cette notion de permittence et de qualification et d'expérience à acquérir avec le temps. Oui. Et en fait, même les boîtes du 440, même pour des diplômés, aujourd'hui, prennent le contre-coup de cette permittence en termes de qualité, de produits et de services proposés.
Oui, mais c'est parce qu'elles peuvent les payer.
Parce qu'elles peuvent les payer. Mais attends, il y a un effet qui se coule dans cette histoire. C'est très simple. Je ne vais pas te rappeler l'histoire d'Internet. Le mec qui a inventé Internet en France, qui va voir le président de la République à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, il fait dire, vous n'enlevez pas de mon truc. Hein, ben, je vais aux États-Unis. Voilà.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je tiens à rappeler quand même que selon la fameuse formule de notre président, qui disait qu'il fallait traverser la rue pour ne pas trouver d'emploi. Non, c'est l'inverse.
Pour trouver un emploi, je crois.
C'est un gag. On écoute une petite chanson, ensuite on reprend la parole. Merci.
Tes deux seins plantés dans l'océan m'ont fait tant chavirer. J'aimerais qu'un nuage.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires du collectif Agir ensemble contre le chômage AC1920. Je suis ce soir avec Ludo et Christophe.
Bonsoir.
Claude à la technique et bien sûr Gilles pour animer cette émission. On reprend évidemment sur cette réforme du chômage. Mais d'abord, j'en voulais savoir ce que pensait notre ministre du Travail sur la précarité. Plutôt.
Alors, Madame Elisabeth Borne était en déplacement à l'agence Pôle emploi de Vitry-sur-Seine donc le 28 septembre, si je ne m'abuse. Et ça a été un moment de vérité ministérielle. Lundi 27 septembre, elle a présenté son plan d'investissement annoncé par le Premier ministre pour les demandeurs d'emploi de longue durée, c'est-à-dire ceux qui sont au chômage depuis plus de 2 ans. Donc, le déblocage, en gros, d'un milliard d'euros supplémentaires pour cette année et l'année prochaine. Le but, soutenir la formation des chômeurs longue durée et des personnes travaillant dans des secteurs en difficulté pour les former à des filières d'avenir ou à celles qui ont besoin de main-d'œuvre. La permittence existe, mais nous la combattrons. Très bien. Alors, donc, elle s'est retrouvée. Seulement, voilà, il y a eu un petit problème. Parce que au moment de son point presse, Madame la ministre du Travail a rencontré des demandeurs d'emploi qui, eux, se sont exprimés sans fil, comme cette habitante de Vitry qui vient de trouver un travail dans les assurances. Sans l'aide de Pôle emploi, après plus de 2 ans de chômage, les sous-emplois, j'en ai trouvé, AVS, auxiliaire de vie scolaire, ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, etc., cite-t-elle. Je pourrais même être femme de ménage dès demain. Ce à quoi la ministre répond « Je ne sais pas si on peut parler de sous-emploi, parce qu'il y a tout de même des gens dont c'est le métier. » Une réponse qui n'a pas vraiment plu à l'habitante en question, qui a de nouveau interpellé le ministre, Madame la ministre, « Mais vous vivez avec 800 euros par mois ? Bien sûr que ce n'est pas un sous-emploi. Je considère ces personnes-là pour avoir travaillé avec elles, mais pas le salaire qu'on leur donne. » Et l'habitante de poursuivre l'aide à la personne, l'aide à domicile, etc. On a vu pendant la pandémie qu'on en avait besoin et on leur donne pas le salaire adéquat. Bah oui, hein, c'est bien de donner des salaires à sous-emploi à 800 euros par mois et de dire que ces gens-là sont trop riches, mais avec 800 euros par mois aujourd'hui en France, on ne vit pas. Je pense que les gens, je vois beaucoup de gens en ont un peu ras-le-bol. Alors, plus loin, une autre habitante, nouveau moment de réalité ministérielle. Un autre habitant, pardon, qui a un poste de cacariste depuis 5 ans sans succès. J'ai fait beaucoup de recherches sur le site internet Indeed. J'ai souvent pas de réponse. Il y a là, j'ai plus des gens qui ne répondent pas. Donc voilà. Et puis là-dessus, il était présent sur place également un camarade de la CGT, Pierre Garnaudier, travailleur privé d'emploi, a lui aussi accueilli à Lisbonne. Borne à son arrivée à Vitry-sur-Seine, grand moment de dialogue social. À la CGT, nous portons la revendication des 32 heures parce que les 32 heures, c'est arithmétiquement 4 millions d'emplois en plus, fallait-il le rappeler. C'est 120 milliards d'euros supplémentaires de cotisations pour notre protection sociale, poursuit syndicaliste. Donc rien que cette mesure-là, elle permet d'indemniser tous ceux qui se retrouvent au chômage ensuite. Le représentant de la CGT estime également que le montant des allocations chômage est aujourd'hui insuffisant pour à la fois subvenir aux besoins d'un chômeur et chercher un travail en même temps. Voilà, alors c'est un grand moment de réalité. Je ne fais pas faire vos
réactions. C'est de la réelle politique, en fait.
Voilà, c'est de la réelle politique de Mme Borne. Bah,
c'est le monde réel, quoi, c'est ça.
Le monde réel, que les emplois à 800 euros par mois, on peut vivre avec ça merveilleusement, sachant que ce n'est même pas le prix de sa chambre.
Bah, on comprend qu'il fait une réforme du chômage, parce que s'il y a beaucoup de gens qui sont payés 800 euros par mois, c'est vrai qu'il est scandaleux que les chômeurs touchent plus.
Bien sûr.
Excusez-moi. Oui, ça doit être ça, la logique.
D'autant que Mme Borne doit toucher plutôt avec un zéro supplémentaire, donc ce n'est pas 800, mais 8000.
Oui, voilà.
Donc on est d'accord.
Minimum.
Oui, minimum. Sans les avantages annexes et en nature et puis de statut social que.
Par jour, mais elle a perdu jour. Par rapport à avant aussi. Elle y a perdu.
Voilà. Elle aussi. Bien. Alors, on peut dire aussi que par rapport à ça, il y a donc tous les emplois précaires en tension sous-traités et très mal payés. Hein, donc
bien sûr, évidemment.
Dénonçons les choses depuis des années.
Moi, j'ai un exemple. Avec Amazon.
Alors, oui, oui.
Et je voulais dire que.
En venir.
Moi, je voulais dire que l'espoir vient des États-Unis. Ouais, vous n'avez pas compris ça. L'espoir vient des États-Unis, car en ce moment, c'est là que ça se passe. Bon, c'est toujours là que ça se passe, c'est vrai. Bon, en fait, non, je déconne, parce que c'est vrai que aux États-Unis, il y a eu un tel écrasement du salaire minimum. En fait, il n'y avait pas de salaire minimum. Que le salaire minimum moyen, calculé, hein, sans salaire minimum, donc, était encore plus bas, évidemment, que le salaire européen moyen de l'allemand. Quoique l'allemand, maintenant, il n'y avait pas non plus de salaire avant. Mais en tout cas, très nettement plus bas que le salaire français. Et donc, du coup, on est parti de tellement bas que, forcément, on ne peut que remonter. Alors, évidemment, ça reste un peu comme ça, vous voyez, des déclarations aussi, hein, de principe, parce que Biden, finalement, il a fini par dire qu'il fallait un peu mieux payer les gens. On voulait simplement ne pas se plaindre de la pénurie de main-d'œuvre, de la soi-disant pénurie de main-d'œuvre d'ailleurs, hein, parce que ça dit beaucoup du type d'emplois qui sont proposés aux États-Unis dans les services.
Il y a beaucoup de pauvres aux États-Unis, il faut le rappeler quand même. Hein.
Il y a énormément de pauvres, et il y a toujours eu, et de sans-abri aussi, hein, ce qui est un phénomène. Et justement, Amazon est donc était le champion du monde, enfin un des champions, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, de ces emplois totalement précaires, dégradés. Et figurez-vous que ils avaient trouvé quand même goût du 19e.
Ah,
le
oui.
goût du 19e siècle, du travailleur du 19e siècle, puisqu'ils avaient décidé de fixer des quotas de productivité à leurs ouvriers dans les entrepôts. Vous savez, à Amazon, les ouvriers emballent ce qui a été acheté sur Internet pour
comme les marchandiseurs, en fait, c'est un peu ça.
Exactement. Et sauf que les cadences étaient telles qu'évidemment, c'est quand vous achetez sur Amazon, c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit, hein, c'est que vous êtes livré le lendemain ou le surlendemain. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont surexploités. Et évidemment, ils bouffent la concurrence, hein, bien sûr. Et donc, enfin, en Californie, alors c'est l'État de Californie, hein, elle a légiféré donc le 22 septembre et elle a interdit aux employeurs de fixer des quotas de productivité, estimant que c'était à la fois presque un retour du travail à la tâche, quelque part, parce que c'est en fonction du nombre de travail que vous faites, et puis que, bah oui, c'était aussi en termes de règlement. Vous savez que le règlement au 19e faisait foi dans les entreprises, et c'était donc ce règlement, on avait des trucs horaires, des choses comme ça, justement pour augmenter la productivité. Et le temps, c'est de l'argent, comme vous le savez tous, mais selon les économistes, hein, bien sûr. Ce qui est visé, c'est évidemment les entrepôts, donc où on empaquette, trie et envoie les colis aux clients. Donc, ils ne seront plus soumis à cette règle, puisque les quotas de productivité empêchaient les ouvriers de prendre des pauses, pour vous dire. Voilà. Alors, du coup, selon une enquête du média en ligne The Verge, la pression au résultat est telle que les travailleurs pas assez productifs aux yeux d'Amazon sont automatiquement virés. On est aux États-Unis, donc il n'y a pas de protection, pas beaucoup de protection pour le salarié. Et en principe, la loi devrait obliger les employeurs à divulguer les quotas de productivité aux travailleurs. Elle permettra aux travailleurs de poursuivre des employeurs pour éliminer certains objectifs problématiques. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la logique. Hein. Ouais. Cette nouvelle loi obligera les employeurs à divulguer les quotas de productivité aux travailleurs. C'est-à-dire qu'en prenant connaissance des quotas qui leur sont imposés, ils pourront aller porter plainte. Donc voilà. Ça reste... voilà. Mais, heureusement, le lobby patronal existe aux États-Unis aussi. Et donc... cette loi est loin de faire l'unanimité chez d'autres entreprises également concernées.
Ouais,
et donc,
je pense à Walmart, par exemple.
Voilà, tout à fait, Walmart, mais Uber aussi.
Uber, oui.
Un groupement d'entreprises californiens explique que la loi amplifiera les problèmes sur la chaîne d'approvisionnement, augmentera le coût de la vie et éliminera des emplois. éliminera les emplois, ça c'est toujours l'argument qui tue, et cela améliorera la sécurité des travailleurs, rétorque le gouverneur de Californie, qui s'appelle Gavin Nelson, et deux études ont récemment montré que le taux de blessures graves des travailleurs d'Amazon avait était presque le double du reste de l'industrie de l'entreposage. Il faudra un jour expliquer au patron que le revenu des employeurs, c'est une demande, c'est-à-dire que c'est parce qu'ils ont du revenu qu'ils peuvent consommer vos produits, un truc qu'on a visiblement tous oublié. Mais voilà.
Très bien. Alors Christophe, tu avais l'exemple d'un journaliste qui se retrouvait au chômage à 58 ans, c'est ça ?
À 52 ans.
52 ans.
Alors, c'est donc par rapport à cette réforme de l'assurance chômage dont on parlait, je voulais, il y a une personne qui mériterait d'être invitée. On bifurque, c'est un petit peu un autre sujet, mais c'est très concret. C'est Jean-Pierre Raymond, c'est un journaliste indépendant. Il était l'invité d'André Bercoff sur Sud Radio dans Bercoff dans tous ses états, 12h à 14h, pour son livre Pôle emploi, la machine à asservir. Comment Macron renforce le contrôle des chômeurs, aux éditions Max Milo.
Alors, nous pourrions éventuellement l'inviter.
Oui, absolument. Et on lui posait tout un tas de questions. Et lui, je vais la faire très courte, il disait, moi je me suis allé m'inscrire à un moment donné à Pôle emploi, parce que du fait de la situation. Et puis, je me suis rendu compte que Pôle emploi, ça représente aujourd'hui 55 000 salariés, c'est comme une multinationale. Ça a un budget de 5 milliards d'euros. C'est une énorme machine au budget faramineux qui est aujourd'hui incapable d'aider. Il s'en est rendu compte, 90% des chômeurs ont retrouvé un emploi stable. Alors, c'est un chiffre à vérifier, mais lui, c'est selon ses déclarations, son vécu. 90% des chômeurs a retrouvé un emploi stable. Il fait part de son expérience professionnelle. Il dit, quand vous êtes licencié, vous allez à Pôle emploi, il y a 52 ans. Tous les DRH vous disent que vous êtes déjà vieux et que les chances de retrouver un emploi sont minces. Je connaissais un peu les pratiques de Pôle emploi. Je vais devoir travailler avec des gens binaires qui répondent par oui ou non. J'ai voulu positiver cette expérience douloureuse en écrivant un livre. Je n'ai pas été déçu du tout. Alors, relate, c'est donc ses péripéties avec Pôle emploi, contacté au bout de 3 mois après son licenciement. Il suit la procédure classique du demandeur d'emploi de base, des propositions de formation aux erreurs administratives. Alors, proposer de former un journaliste à l'écrit après tant d'années d'expérience, c'est un concept. Le journaliste décrit à la perfection le parcours du combattant qui atteint tout chômeur une fois confronté à l'énorme machine qu'est Pôle emploi. Il termine son propos, je résume, vous recevez sans cesse des injonctions, même le dimanche, et vous devez répondre aux ordres que vous donne Pôle emploi. Par exemple, on exige de vous que vous rendiez à une formation Pôle emploi pour apprendre à rédiger un CV, mais de qui se moque-t-on ? Au bout de 2 ans de chômage, les conseillers n'arrivent pas à remplir leur objectif de rendez-vous avec des chômeurs. Lorsqu'ils n'y arrivent pas, ils organisent alors une formation. C'est un peu malheureusement ça, c'est le benchmarking, c'est le capitalisme.
Alors il y a juste un truc que j'aurais voulu dire parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est quand même que il prévoit de payer des bracelets électroniques pour qui permettent aux gens qui travaillent à Pôle emploi de prévenir en cas d'incident,
en cas d'agression
dans les Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on en est à une situation qui est complètement débile, parce qu'en fait, si je rappelle comment sont nés, je l'ai déjà dit à ce micro, comment sont nées les villes nouvelles, au moment de la conception donc architecturale des villes nouvelles, les gens qui travaillaient sur les villes nouvelles déjà prévoyaient des centres d'éducation des centres de prévention.
Pour les délinquants.
Pour les délinquants. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la capacité de prévoir des habitats suffisamment importants pour les familles nombreuses pour que les gens se sentent bien chez eux. Ils prévoyaient des cages à lapins et éventuellement des clubs de prévention pour les délinquants. Ce qui est complètement... on marche sur la tête, quoi.
Mais les gens sont des délinquants.
Les gens sont des délinquants, surtout les chômeurs.
Les chômeurs sont des délinquants, en fait. on arrive à l'absurdité du système. C'est-à-dire que, finalement, nous, on l'a toujours dit, que Pôle emploi, c'était une gestion administrative du chômage. Pas une gestion sociale, administrative. C'est-à-dire qu'avec ses façons de compter, ses entretiens, ses machins... Non. Le chiffre, c'est 90% des... Voilà. Des chômeurs ne retrouvent pas d'emploi par Pôle emploi.
Faudra qu'on l'invite, ce monsieur, ça pourrait être intéressant.
Tout à fait. Je veux dire, évidemment, si vous avez... il y en a un peu plus ces derniers temps, puisqu'il y a une reprise effectivement forte. Mais si vous avez en moyenne 200 à 300 000 offres d'emploi pour 3 millions de chômeurs, bah, ça fait un rapport d'un sur 10. Et en réalité, c'est plus aujourd'hui.
Bien sûr, bien sûr. Hein,
puisque le nombre d'emplois vacants, contrairement à ce qu'on raconte, c'est 250 000, au maximum 350 000, hein, selon la DARES. Bon, les calculs prêtent à discussion, mais en tout cas, c'est pas le million justement d'offres actuelles sur le site de Pôle emploi qui ne sont pas actualisées et dont on sait toutes les carences, quoi. Donc forcément, à un moment donné, il y a des problèmes et vous avez des problèmes. Si en plus vous tapez sur l'indemnisation des chômeurs, vous avez des problèmes avec des chômeurs. Et donc à la fin, bah oui, qu'est-ce qui reste à faire? Bah, c'est pas des systèmes, voilà, des systèmes anti-agression. Bah,
oui.
Super.
Alors il y avait juste avant de passer la musique, j'ai vu, enfin, ce qui a été vu également sur un pôle emploi à Paris, une femme a été donc un conseiller a demandé à une femme de venir à son entretien à 9h du matin. Elle arrive à 9h du matin. Et à midi, donc 3 heures plus tard, le conseiller vient la chercher. Sauf qu'à midi, elle devait partir chercher sa fille à l'école pour des raisons médicales.
Elle est arrivée à quelle heure, tu dis ?
Elle est arrivée à 9h pour leur entretien.
D'accord.
C'était 9h.
Elle a attendu 4 heures.
Elle a attendu 3 heures. Et à midi, le conseiller, mais authentique, hein, à midi, le conseiller vient la chercher pour l'entretien. Et elle dit, mais là, je ne peux pas rester parce que je dois aller chercher ma fille parce qu'elle a un rendez-vous médical. Et tu sais ce qu'a dit le conseiller en question ? Il a dit, ah, mais ça vaut radiation. Il faut me prouver que vous avez un rendez-vous médical. Hallucinant. Là-dessus, on écoute une petite chanson, on reprend la parole par la suite.
En vide ! En vide ! Excusez-moi, ça va pas être possible. Non, je suis désolée. Non, excusez-moi. Non, c'est vrai. Je suis bien élevée, moi. J'ai bien appris ma leçon et je suis pas une voleuse. On m'a dit depuis toute petite qu'il ne fallait rien prendre sans avoir demandé. Qu'il fallait demander d'abord. Sinon, ça allait barder. Alors, comment s'y prendre? Et à qui demander? Tient la parole. Vous. Ah non, décidément, non, je peux pas. Je peux pas prendre la parole. Elle pourrait te manquer. Tu chercherais à dire et tu aurais plus les mots pour t'expliquer. Je veux pas prendre la parole. Autant prendre un train ou un bus, un ticket pour Mars ou un billet pour Vénus. Je veux pas prendre la parole, je préfère l'épouser. Me baigner dans le flot immergé des idées, le fleuve généreux de nos aînés. Articuler les sons pour les faire exister. Je veux pas prendre la parole, je préfère la semer. Comme on sèmerait des graines pour plus d'égalité. Les paroles sont des fleurs, je les regarde pousser. J'écoute la voix de ceux qui ne l'ont pas trouvée. Je voudrais bien l'accueillir quand elle aura germé. Je veux pas prendre la parole, je préfère la confier à des oreilles amènes, des bouches encore baies, qui refuseront toujours de n'être qu'à moitié. Je veux pas prendre la parole, je préfère l'emprunter. La langue ne s'use pas d'être partagée. Enrichie par chacun, elle en est décuplée. Je veux pas prendre la parole. Je préfère la porter. Depuis le temps qu'elle sert, elle est si fatiguée. Messages publicitaires, journaux télévisés, annonces, presse à scandale, communiqués. Les marcheurs de sommeil l'ont esclavagisée. Marionnette sans fil, elle a besoin d'être incarnée. Je veux pas prendre la parole. Je préfère la donner. Je serai porte-parole pour bien des oubliés. Et je t'en donne ma parole. Voilà ce que je ferai.
Très bien, on va reprendre. Donc, vous êtes toujours sur Mode d'emploi, fréquence par employeur 106.3 FM avec nos camarades ici présents sur le problème de l'assurance chômage et donc l'émission des chômeurs précaires. Donc, je tiens juste à dire une petite annonce avant de terminer cette émission. Juste, voilà,
Donc, faut savoir qu'il y a 500 000 salariés sont encore sur du chômage partiel. Donc, voilà. Et que la réforme actuelle qui est en cours, qui va démarrer aujourd'hui et qui démarre aujourd'hui, va concerner plus de 1 million de personnes. Donc, c'est quand même important en termes de quantité. Voilà. Et il y a également apparemment une
manifestation. Oui, il y a la manif interprofessionnelle du 5 octobre, donc c'est mardi, oui. Qui est aussi consacrée à l'indemnité contre le chômage, mais pas exclusivement.
D'accord.
Donc je vous conseille d'y aller parce qu'il y aura du monde du fait du chemin de la réforme de l'UNEDIC. Le rendez-vous exact n'a pas été encore officialisé, mais sur internet vous pouvez le trouver. Et donc je pense que ça sera entre, comme d'habitude, on partira vers 14h. Voilà. Et donc venez nombreux pour protester contre cette loi inique.
Très bien. Merci. Merci à tous les deux. Cette émission se termine. Je vous demande. Donc le rendez-vous prochain, c'est dans un mois. Restez vigilants. Surtout ne lâchez rien. Continuez à manifester et être en colère. Je laisse la parole maintenant à l'émission prochaine, à l'émission suivante, pardon. C'est
SM.
SM de Mécano. Voilà. Stress Mécano. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.
Bonsoir.